Il y avait un héros nommé Héraclès qui rentrait après l'exécution de son 9e travail. Il ramenait avec lui la ceinture de la reine des Amazones. Il était épuisé. Mais tandis qu'il naviguait sur le chemin du retour, ils ont longé la côte de Phrygie. Et là, il lui a semblé apercevoir quelque chose d'étrange. Là, sur la falaise, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un, comme accroché à la paroi. Il a donné ordre au pilote de s'approcher. Il y avait bien quelqu'un d'accroché à la paroi, quelqu'un d'attaché à la paroi par des chaînes. C'était une femme, une jeune femme. Et au-dessus, sur la falaise, il y avait toute une troupe rassemblée. Héraclès a jeté l'ancre, puis il s'est rendu au sommet de la falaise. Il y a découvert un roi, avec son peuple, qui venait assister à un triste spectacle. C'était le roi Laomédon, qui, pour mettre fin à une peste et aux ravages d'un monstre marin, sacrifiait sa fille Hésione à ce monstre. Mais quand le roi a vu Héraclès, il l'a reconnu tout de suite, avec sa peau de lion sur les épaules, avec la tête de lion qui recouvrait sa propre tête. « Toi, tu es le plus grand de tous les héros, tu vas pouvoir m'aider, tu vas pouvoir vaincre la bête. Affronte-la. » Héraclès était fatigué. Il en avait assez de tous ses exploits. Mais le roi a insisté. « Fais-le, fais-le pour mon peuple, fais-le pour ma fille, fais-le, fais-le pour la récompense. Tiens, je te donnerai des chevaux divins, des chevaux divins que Zeus lui-même m'a offerts. » Et comme Héraclès ne paraissait pas convaincu, le roi Laomédon est allé chercher, dans la ville de Troie, les chevaux. 4 chevaux blancs, magnifiques. Et il n'avait pas menti. Héraclès ne savait pas trop. Mais la foule le pressait. « Notre belle princesse Hésione, elle va mourir, il faut faire quelque chose !» Héraclès aurait voulu leur répondre que c'était eux qui avaient choisi de l'accrocher sur la falaise pour se débarrasser du monstre, pour répondre à l'oracle. Il n'avait pas eu besoin de demander, il le savait, il en était sûr, c'était toujours comme ça. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de parler, le monstre a surgi de la mer. Énorme. Le monstre s'est avancé en soulevant la mer. On aurait dit qu'elle faisait comme un tissu sur lui, comme un vêtement. Il s'est vêtu de la mer, qu'il s'est dressé de toute sa hauteur, qu'il s'est avancé vers la belle Hésionée. Alors, Héraclès a senti son courage et sa vigueur monter en lui. Alors, Héraclès, du haut de la falaise, a sauté. Il est arrivé sur la tête du monstre. Il a frappé. Frapper, frapper encore, frapper sans s'arrêter jusqu'à être complètement recouvert d'un sang noir. Et il a frappé et frappé et frappé encore sans s'arrêter jusqu'à n'entendre plus rien que le bruit des os qui craquent de la cervelle qui gicle. Ah ! Il a frappé, frappé jusqu'à ce que le corps du monstre mort depuis déjà longtemps s'échoue sur la plage. Héraclès s'est effondré sur la plage. Il a fermé les yeux. Tout le monde poussait des cris de joie. Il a réussi! Il a réussi! Il a réussi! On a délivré la belle Hésione. Elle le regardait avec des yeux. Elle était toute prête à partir avec lui. Mais Héraclès n'en voulait pas. Il avait déjà fait trop de misère, tué sa propre femme, ses propres enfants. Il ne voulait pas se remarier, non. Mais il est allé voir Laomédon et il lui a dit: Allez, qu'on en finisse, donne-moi les chevaux, embarquons-les sur mon bateau, que je reparte, j'ai encore affaire. Ah non, mais je t'ai proposé les chevaux, mais tu ne m'as pas dit que tu en voulais. Tu as fait ça par bravoure, tu as fait ça par ma fille, tu n'as pas besoin de ces chevaux, je vais les conserver. Héraclès l'a regardé. Il a été tellement surpris par la réponse, par l'impudance du roi, qu'il n'a même pas su comment réagir. Il a dit: Mais tu m'as promis. C'était mon paiement. Allez, file, va accomplir d'autres exploits. Tu as beaucoup à faire. Laisse-nous tranquilles. Tu es un peu violent, tu effraies les enfants. Héraclès est remonté dans sa barque sans comprendre. Et il a juste dit: Mais je vais revenir. Je vais détruire ta ville, ton peuple, tes enfants. Et Laomédon a dit: Mais oui, c'est ça, allez, repars, repars, repars. Laomédon s'est installé dans sa ville, avec son peuple, avec sa fille. Il n'a pas écouté tous les murmures, tout ce que l'on disait sur ses parjures. Et de fait, avec la mort du monstre, la peste a disparu, la prospérité est revenue, et la ville a pu se développer comme on le lui avait promis, grâce à ses hauts murs puissants, cyclopéens. La ville est devenue l'une des plus puissantes de la région. Et 12 années se sont écoulées, avant qu'un jour, une flotte se dessine à l'horizon. Il y avait là plusieurs navires, des héros grecs qui faisaient voile vers Troie. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre qu'ils étaient hostiles. On a sonné la corne, et tous les paysans, avec leurs récoltes, sont venus se réfugier dans la ville de Troie, aux remparts inviolables. Sur la côte a débarqué Héraclès. Il avait rassemblé une troupe de héros. Il était maintenant en pleine forme. Ses travaux étaient finis depuis longtemps. Et il venait de passer une année comme esclave auprès de la reine Omphale. Il avait besoin d'action. Il avait besoin de gloire. Il s'est avancé devant les murs épais. Il a envoyé sa troupe. Les hommes ont frappé, les hommes ont essayé de grimper les uns après les autres, mais ils n'y sont pas parvenus. La muraille était inviolable. Même Héraclès lui-même n'arrivait pas à l'escalader. À chaque fois, ceux d'en haut lui renvoyaient des pierres, de la poix. À chaque fois, il retombait. Alors a commencé le siège. Mais parmi les hommes qui accompagnaient Héraclès, il y avait Télamon, le fils d'Éaque. Un matin, alors qu'Héraclès avait lancé une nouvelle offensive sur les remparts, Télamon, seul à grimper, alors que tous les autres tombaient autour de lui, Télamon seul est parvenu jusqu'en haut. Et de là-haut, Télamon seul a réussi à vaincre tous les gardes qui se trouvaient au sommet, à faire tomber des cordes, et bientôt, tous les Grecs étaient à l'intérieur de la ville de Troie. Tous les Grecs ont pris la ville de Troie. Mais Héraclès était furieux. Télamon, qui ne devait être que son second, s'était montré plus brave que lui. Héraclès a laissé monter la colère en lui. Il a levé sa massue, il s'est approché de Télamon et à ce moment-là, il a vu que Télamon avait des pierres dans les mains. Il lui a dit: Mais qu'est-ce que tu fais? Télamon l'a regardé avec un grand sourire. Il lui a dit: Je fais la première chose qu'il y a à faire quand je pénètre dans cette ville. J'élève un autel à Héraclès victorieux. C'est grâce à toi que cette ville a été prise. C'est toi qu'il faut célébrer. Et Héraclès a senti sa colère tomber aussitôt. Il a serré son compagnon dans les bras. Il a éclaté de rire. Allons! Je vais trouver quelque chose pour toi. Il est entré dans le palais. Il a vu le vieux Laomédon, D'un coup de massue, il l'a tué. Puis, il a rassemblé tous les enfants de Laomédon. Il a vu parmi eux la belle Hésione. Il a regardé Télamon et lui a dit « Elle te plaît ? Alors, épouse-la. » Et au moment où ils allaient repartir, Héraclès a dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Hésione, comme cadeau de mariage ? Dis-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Elle a regardé Héraclès, elle a regardé derrière elle, et elle a désigné son plus jeune frère, celui qui n'était qu'un enfant, celui qui s'appelait Podarcès. Héraclès a grogné. « Celui-là devait être un esclave. Il faut le racheter. » Alors elle a juste enlevé son voile. Elle l'a tendu à Héraclès. Et ainsi elle a racheté son plus jeune frère, Podarcès, qui s'est depuis appelé le racheté, Priam. Et c'est à lui, encore enfant, qu'Héraclès a confié les règnes de la ville de Troie, avant d'emmener tous ses frères et sœurs ainsi qu'une bonne partie de la population en esclavage.